Abbé Dinoir, l'art de se taire. Première partie, introduction. Nous avons des règles pour l'étude des sciences et pour les exercices du corps. La République littéraire est remplie d'art de pensée, d'art de l'éloquence, d'introduction à la géographie, à la géométrie, etc. Et pourquoi n'enseignerait-on point l'art de se taire, art si important et cependant si peu connu? Essayons d'en expliquer les principes et la pratique. Je ne commencerai point cet ouvrage par l'exposition des avantages qu'on en retire. Chacun les connaît assez. Je me bornerai dans cette introduction à quelques remarques nécessaires pour la suite de cet ouvrage. Premièrement, on ne peut donner une connaissance exacte de certains objets sans en expliquer en même temps d'autres avec qui ils ont des rapports essentiels. Aussi, on ne peut parler des ténèbres sans connaissance de la lumière, ni du repos sans rapport au mouvement, etc. En traitant du silence, je ferai donc souvent des réflexions sur la parole afin d'expliquer l'un plus clairement relativement à l'autre, ou plutôt de les expliquer tous les deux ensemble en distinguant cependant avec soin ce qui regarde les règles du silence. Deuxièmement, je suppose ici qu'il ne suffit pas, pour bien se taire, de fermer la bouche et de ne point parler. Il n'y aurait en cela nulle différence entre l'homme et les animaux. Ceux-ci sont naturellement muets. Mais il faut savoir gouverner sa langue, prendre les moments qui conviennent pour la retenir, ou pour lui donner une liberté modérée, suivre les règles que la prudence prescrit en cette matière, distinguer dans les événements de la vie les occasions où le silence doit être inviolable, avoir une fermeté inflexible lorsqu'il s'agit d'observer sans se démentir tout ce qu'on a jugé convenable pour bien se taire. Or, tout cela suppose réflexion, lumière et connaissance. C'est peut-être dans cette vue que les anciens sages ont dit que, pour apprendre à parler, il faut s'adresser aux hommes, mais qu'il n'appartient qu'aux dieux d'enseigner parfaitement comment on doit se taire. Troisièmement, la connaissance dont je parle est différente parmi les hommes eux-mêmes, selon la diversité de leur caractère. C'est ici le point distinctif de la manière de se taire, qui semble commune aux savants et aux ignorants. Je l'expliquerai par la suite. Le premier degré de la sagesse est de savoir se taire. Le second, de savoir parler peu et de se modérer dans les discours. Le troisième est de savoir beaucoup parler, sans parler mal et sans trop parler. Établissons les principes sur lesquels porte le présent ouvrage. Ils seront pris des oracles du plus sage des hommes, des maximes des saints-pères et des savants, qui ont eu la réputation d'être les hommes les plus éclairés de leur siècle. Chapitre 1er. Principes nécessaires pour se taire. Premièrement, on ne doit cesser de se taire que quand on a quelque chose à dire qui vaut mieux que le silence. Deuxièmement, il y a un temps pour se taire comme il y a un temps pour parler. Troisièmement, le temps de se taire doit être le premier dans l'ordre. On ne sait jamais bien parler qu'on ait appris auparavant à se taire. Quatrièmement, il n'y a pas moins de faiblesse ou d'imprudence à se taire quand on est obligé de parler qu'il y a de légèreté et d'indiscrétion à parler quand on doit se taire. Cinquièmement, il est certain qu'à prendre les choses en général, on risque moins à se taire qu'à parler. Sixièmement, jamais l'homme ne se possède plus que dans le silence. Hors de là, il semble se répandre, pour ainsi dire hors de lui-même, et se dissiper par le discours, de sorte qu'il est moins à soi qu'aux autres. Septièmement, quand on a une chose importante à dire, on doit y faire une attention particulière. Il faut cela dire à soi-même, et après cette précaution, cela redire, de crainte qu'on est sujet de se repentir lorsqu'on n'est plus le maître de retenir ce qu'on a déclaré. Huitièmement, s'il s'agit de garder un secret, on ne peut trop se taire. Le silence est alors une des choses dans laquelle il n'y a point ordinairement d'excès à craindre. Neuvièmement, la réserve nécessaire pour bien garder le silence dans la conduite ordinaire de la vie n'est pas une moindre vertu que d'habileté et d'application à bien parler. Et il n'y a pas plus de mérite à expliquer ce qu'on sait qu'à bien se taire sur ce qu'on ignore. Le silence du sage vaut quelquefois mieux que le raisonnement du philosophe. Le silence du premier est une leçon pour les impertinents et une correction pour les coupables. Dixièmement, le silence tient quelquefois lieu de sagesse à un homme borné et de capacité à un ignorant. Onzièmement, on est naturellement porté à croire qu'un homme qui parle très peu n'est pas un grand génie et qu'un autre qui parle trop est un homme étourdi ou un fou. Il vaut mieux passer pour n'être point un génie du premier ordre, en demeurant souvent dans le silence, que pour un fou en s'abandonnant à la démangeaison de trop parler. Douzièmement, le caractère propre d'un homme courageux est de parler peu et de faire de grandes actions. Le caractère d'un homme de bon sens est de parler peu et de dire toujours des choses raisonnables. Treizièmement, quelque penchant qu'on ait au silence, on doit toujours se méfier de soi-même, et si on avait trop de passion pour dire une chose, ce serait souvent un motif suffisant pour se déterminer à ne plus la dire. Quatorzièmement, le silence est nécessaire en beaucoup d'occasions, mais il faut toujours être sincère. On peut retenir quelques pensées, mais on ne doit en déguiser aucune. Il y a des façons de se taire sans fermer son cœur, d'être discret sans être sombre et taciturne, de cacher quelques vérités sans les couvrir de mensonges. Chapitre 2. Différentes espèces de silence. Il est un silence prudent et un silence artificieux. Un silence complaisant et un silence moqueur, un silence spirituel et un silence stupide, un silence d'approbation et un silence de mépris, un silence de politique, un silence d'humeur et de caprice. Premièrement, le silence est prudent quand on sait se taire à propos, selon le temps et les lieux où l'on se trouve dans le monde, et selon les égards qu'on doit avoir pour les personnes avec qui on est engagé à traiter et à vivre. Deuxièmement, le silence est artificieux quand on ne se tait que pour surprendre, soit en déconcertant par là ceux qui nous déclarent leurs sentiments, sans leur donner à connaître les nôtres, soit en profitant de ce que nous avons entendu et remarqué sans y avoir voulu répondre autrement que par des manières trompeuses. Troisièmement, le silence complaisant est une application non seulement à écouter sans contredire ceux à qui on a dessein de plaire, mais encore à leur donner des marques du plaisir qu'on prend à leur entretien ou à leur conduite, de sorte que les regards, les gestes, tout supplée aux défauts de la parole pour leur applaudir. Quatrièmement, le silence moqueur est une réserve maligne et affectée à ne point interrompre sur les choses dépourvues de sens ou inconsidérés, les sottises qu'on entend dire ou que l'on voit faire pour jouir du plaisir secret que donnent ceux qui en sont les dupes en s'imaginant qu'on les approuve et qu'on les admire. Cinquièmement, c'est un silence spirituel quand on aperçoit sur le visage d'une personne qui ne dit rien un certain air ouvert, agréable, animé et propre à faire comprendre, sans le secours de la parole, les sentiments qu'on veut laisser connaître. Sixièmement, c'est au contraire un silence stupide lorsque la langue étant immobile et l'esprit insensible, tout l'homme paraît être abîmé dans une profonde taciturnité qui ne signifie rien. Septièmement, le silence d'approbation consiste dans le consentement qu'on donne à ce qu'on voit et à ce qu'on entend, soit en se contentant d'y avoir une attention favorable, qui marque le cas qu'on en fait, soit en témoignant par quelque signe extérieur qu'on le juge raisonnable et qu'on l'approuve. Huitièmement, c'est un silence de mépris que de ne pas daigner répondre à ceux qui nous parlent ou qui attendent que nous nous déclarions sur leur sujet et de regarder avec autant de froideur que de fierté tout ce qui vient de leur part. Neuvièmement, le silence d'humeur est celui d'un homme dont les passions ne s'animent que suivant la disposition ou l'agitation de l'humeur qui domine en lui, et d'où dépendent la situation de son esprit et l'opération de ses sens, qui trouvent bien ou mal, selon que la physique fait bien ou mal ses fonctions, qui n'ouvre la bouche que par boutade, et pour ne rien dire que de désobligeant ou de déplacé. Dixièmement, le silence politique est celui d'un homme prudent, qui se ménage, qui se conduit avec circonspection, qui ne s'ouvre point toujours, qui ne dit pas tout ce qu'il pense, qui n'explique pas toujours sa conduite et ses desseins, qui, sans trahir les droits de la vérité, ne répond pas toujours clairement pour ne point se laisser découvrir. Il a pour devise ces paroles d'Isaïe « Secretud meum mihi ». Il est d'autres polémiques rusées, fourbes, qu'on ne connaît que trop dans le monde et qu'il est inutile de définir ici « Omnium temporum homines ». Leur silence se rapporte à celui du numéro 2 ci-dessus. Chapitre 3. Les causes des différentes espèces de silence. Les différentes manières de se taire naissent de la variété du tempérament et de l'esprit des hommes. Premièrement, le silence prudent convient aux personnes douées d'un bon esprit, d'un sens droit et d'une application exacte à observer les conjonctures qui engagent à se taire ou à parler. Deuxièmement, le silence artificieux plaît aux petits esprits, aux gens méfiants, vindicatifs et occupés à surprendre les autres. Troisièmement, ceux qui sont d'une humeur douce, facile et accommodante ont plus de penchant au silence complaisant. Quatrièmement, ceux qui aiment à se divertir de tout aiment aussi le plaisir qu'ils trouvent dans un silence moqueur. Cinquièmement, le silence spirituel ne subsiste qu'avec des passions vives, qui produisent des effets sensibles au dehors et qui se montrent sur les visages de ceux qui en sont animés. Ainsi, on voit que la joie, l'amour, la colère, l'espérance font plus d'impression par le silence qui les accompagne que par d'inutiles discours qui ne servent qu'à les affaiblir. Sixièmement, il est aisé de juger à quoi convient le silence stupide. C'est le partage des esprits faibles et imbéciles. Septièmement, au contraire, le silence d'approbation suppose un jugement sûr et un grand discernement pour n'approuver que ce qui mérite de l'être. Huitièmement, la dernière espèce de silence qui est celle du mépris est l'effet de l'orgueil et de l'amour-propre qui porte les hommes de ce caractère à penser qu'on ne mérite pas un moment de leur attention. Quelquefois aussi, ce silence peut se trouver dans un homme de jugement qui ne juge pas que ce qu'il méprise par son silence soit digne d'une plus grande considération. Telles sont les vues générales qu'il faut avoir sur le silence pour apprendre à se taire. Nous en avons développé la nature, les principes, les diverses espèces et les causes différentes. L'expérience en fait connaître la vérité dans l'usage du monde. Ce qu'on a dit du silence peut s'appliquer par proportion aux discours prudents ou artificieux, complaisants ou moqueurs, spirituels ou stupides, pleins de témoignages d'approbation ou de marques de mépris, etc.